plus de choses par la musique que par les mots.
Oui, mais vous pouvez écrire toute la nuit, elle peut pas chanter toute la nuit, elle, j'espère qu'elle
non, mais
dort.
Elle peut écrire de la musique, elle peut... La musique, c'est tellement plus universel. Moi, quand mes romans partent à l'étranger, ils ont besoin d'être traduits. Bon, c'est déjà une chance, vous me direz. Mais elle, elle a même pas besoin d'être traduite, c'est encore mieux.
Bah écoutez, on va l'écouter alors. On va écouter Björk.
Des robots, pareil, j'achète tout de
Parce
suite.
que dans votre omelette spatiale, des robots qui font l'amour, c'est intéressant quand même.
Mais c'est certainement l'avenir des robots.
Oui.
Donc.
Après, ils font des œufs.
Voilà.
Vous ne comptez pas vous marier?
Franchement, j'en suis revenue. Je crois que d'avoir été à 7 jours d'un mariage japonais.
Vous avez marre.
Avec tout l'aria que ça pouvait
avec
poser,
tout, j'imagine. Tout la, et toute la belle famille que cela pouvait supposer. On dirait que la belle famille, c'est un problème international, mais quand même, une belle famille japonaise, c'est assez lourd à porter. Franchement, j'en suis revenue. Maintenant, je suis plutôt pour la liberté.
J'ai lu quelque part que votre future belle-mère vous disait que vous êtes beaucoup trop expressif pour être distinguée.
Voilà, c'était tout à fait charmant, vous voyez.
Et un jour, on fait ha-ha, c'est fini.
Ah, c'est fini, si on rigole, on est vulgaire, c'est fini. Ouais.
Alors, il n'y a que deux gens un peu libres en Japon, les gangsters qu'on voit dans les films de
John
Woo.
Ils sont pas libres du tout. Ils sont...
Et puis les fantômes.
Ah, les fantômes, oui, complètement. Mais les gangsters sont encore plus ligotés que les autres parce qu'ils doivent obéir au code d'honneur de la Yakuza et c'est pas rien.
Vous en avez connu ?
Non, mon fiancé n'était pas un Yakuza, non.
Fils de joaillier, quand même.
Oui, enfin, on peut être joaillier sans être malhonnête.
Oui, mais je ne dis pas que les joailliers cambriolent, non, pas du tout. On les cambriole.
Voilà.
Et vous avez ramené des perles?
Mais non, figurez-vous, parce que quand j'étais avec ce garçon avec qui j'ai passé 2 ans, je ressemblais à un sapin de Noël, tellement j'étais couverte de bijoux, forcément. Et dans un stupide accès d'honnêteté, j'ai tout rendu au moment de partir. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai fait ça.
Bah, d'ailleurs, je vois que comme vous n'en portez pas maintenant,
oui, non,
c'est que vraiment, ce n'est pas une charge que vous avez l'intention
j'en
de
vous
infliger.
J'en ai porté assez pour toute ma vie, franchement.
Quand on vous a demandé un objet qui vous plaisait beaucoup, j'ai essayé de voir si ça serait japonais, mais apparemment non. Alors,
je crois que vous allez être très déçu.
Japonais.
Vous allez être très déçu parce que vous imaginez que j'allais vous apporter une superbe statuette de Bouddha en jade ou un objet
J'imagine
infiniment
rien,
raffiné.
Ça dépend.
J'ai apporté la petite grenouille avec laquelle je prends mon bain. Voilà. Et vous voyez, on la met dans l'eau, tiens.
Oui, et elle tient.
Et puis, ça ne quitte pas ma baignoire, je dirais. Et puis après, c'est bien, ça peut cracher de l'eau. Voilà. Et puis... Alors je dis bien sûr que j'avais un fiancé et puis qu'un jour je l'ai embrassé qui s'est transformé en grenouille et qui me plaît beaucoup plus comme ça.
Et oui, en plus c'est transportable,
c'est beaucoup plus, ça fait moins de
et
bruit,
si ça
c'est moins
va,
gênant.
Si ça va fricoter avec d'autres grenouilles,
ça ne me dérange
pas. Être jalouse,
il a droit
ça,
à toutes les grenouilles
sûr,
qu'il veut.
Ouais.
Voilà.
Eh bien, oui, mais alors donc votre psychanalyste que vous n'avez pas consulté, il vous dirait quand même que c'est dangereux d'avoir des jouets de petites filles, non?
Oh. Non. Je sais pas, ça ne fait de mal à personne. Et puis
on
quand et puis ça peut toujours servir aussi comme, je sais pas, comme ventilateur, ça fait un petit souffle frais pendant la journée.
Il paraît que la grenouille porte bonheur.
En plus, c'est vrai. Ce sont des charmants.
Moi, j'ai toujours... Au Japon ou en France?
J'ai toujours trouvé sinistre cette histoire de grenouille qu'on embrasse et qui se transforme en prince charmant. Mais c'est triste, quoi. C'est mieux qu'il reste une grenouille.
De toute façon, c'est déjà anormal d'embrasser une grenouille sur la bouche. Donc, ça prouve qu'on ne mérite pas de rencontrer un prince charmant. Loupé.
Oui, ça n'a pas marché.
Je peux me tromper, mais je crois que jusqu'à présent, vous n'avez écrit que des romans. Donc,
oui.
Pourquoi pas vous lancer aujourd'hui dans l'écriture d'une pièce de théâtre dramatique?
En fait, vous êtes tout à fait d'actualité parce que cette pièce de théâtre est écrite. Elle a été publiée en 1994. Mais publier du théâtre, ce n'est pas grand-chose. Le théâtre, c'est fait pour être joué. Et elle va être jouée à Paris à partir de janvier 2000, au Théâtre Essaillon. Ça s'appelle « Les combustibles ».
Est-ce que vous voyez une grande différence à écrire une pièce de théâtre ou un roman?
Oh oui, c'est beaucoup plus difficile d'écrire du théâtre.
Ah ben, il faut que les gens sortent, reviennent. Déjà, c'est compliqué.
C'est plus difficile parce que dans le théâtre, on n'a aucun droit à l'erreur. Le roman peut se permettre de ressembler un petit peu à la vie, avec le genre de bévue qu'il peut y avoir dans la vie, avec les moments, des moments où l'attention diminue, tout simplement. De même que dans la vie, tous les jours ne sont pas intéressants à vivre. Eh bien, dans le roman, il va de soi, il est même normal et nécessaire qu'il y ait des pages où l'attention diminue. Dans le théâtre, on n'a pas le droit. Dans le théâtre, on doit tout le temps être au sommet de l'attention. Et c'est ça veut dire qu'on doit écrire dans un état d'ébullition intellectuelle et physique totale.
Vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez torturé. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes le Baudelaire au féminin, non pas dans la façon d'écrire, mais dans la façon d'être?
Ma modestie japonaise m'interdit de répondre oui. C'est un très beau compliment que vous me faites, mais il est certain que Baudelaire est un écrivain que j'adore. Et aucun écrivain n'a aussi bien parlé de la beauté, et la beauté est justement un thème qui m'intéresse beaucoup. Ça ne suffit pas du tout à ce que je me compare à Baudelaire.
Est-ce que vous écrivez de la poésie de temps en temps?
Je n'ai jamais écrit une ligne de poésie. J'ai écrit des textes de chansons.
Ouais.
Pour des chanteurs inconnus, et des chanteuses plutôt, qui le seront peut-être moins un jour. Ça a été ma seule manière d'écrire de la poésie.
C'est aussi une manière d'écrire de la poésie. Oui. On appelle ça chanson, ça peut être autre chose, non?
Non, c'était conçu pour être chanté. Je le disais tout à l'heure, moi ce que j'aurais voulu être musicienne. Malheureusement, j'ai pas l'ombre d'un talent musical. Donc j'ai quand même essayé de glisser mon pied dans la porte musique en me faisant parolière, mais toute petite parolière.
Et ça a marché?
Écoutez, il y a une chanteuse que j'aime beaucoup, qui n'est malheureusement pas assez connue, qui s'appelle Robert, et qui chante mes textes. Et je trouve que ce qu'elle fait est magnifique. Si elle pouvait être plus connue, ça me ferait bien plaisir.
Il fallait demander que... Elle a fait un clip, elle a fait un...
Elle a fait quelques clips, elle a quelques CD qu'on peut commander dans les FNAC.
Il fallait demander Robert au lieu de Björk, comme ça on lui aurait fait un peu de pub. Hein.
Je n'y ai pas songé, voilà. Je le regrette amèrement.
Votre père qui s'est mis à chanter du No, vous ne vous verriez pas un jour jouer la comédie par exemple, jouer du Amélie Nothomb?
J'ai joué au théâtre. C'était un soir et j'ai joué un rôle justement le rôle féminin des combustibles, je l'ai joué. Bon, je le connais par cœur ce rôle, puisque je l'ai écrit. Eh bien, j'ai joué absolument comme une frite. Et on ne m'y prendra plus.
Et comme une frite belge.
Comme une frite belge. Et en plus, j'ai souffert. Mais c'est affreux d'être comédien. Ça m'a permis de comprendre à quel point il fallait admirer les comédiens, parce que c'est vraiment un métier épouvantable. C'est effrayant.
Mais non, ils aiment ça. Ça leur fait plaisir.
Ça
ils parlent
sidère.
Toujours d'orgasme avec leur public.
Je n'ai pas connu ce plaisir-là, vraiment.
Ah oui?
Moi, je connais le plaisir en écrivant. Mais vraiment, on joue. Non.
Vous écrivez pendant combien d'heures?
Un minimum de 4 heures par jour. Un minimum.
Sans boire, sans manger?
Si. À jeun, j'avale le matin un demi-litre de thé extraordinairement fort, si fort qu'il en est épais. Et donc, je me shoote à ça, quoi. Mais ça, c'est du liquide. Enfin, du liquide épais. Mais...
Gare à Balzac. Hein,
Balzac, c'était le café.
Oui, c'était le café, justement.
Oui.
Vous, c'est au thé.
C'est
ça. Il se shootait aussi. Oui.
Oui, mais je crois que tous les écrivains ont quelque chose, quoi. Moi, c'est bien tombé. Je suis tombée du côté de la légalité. Mais vous savez, écrire demande une telle énergie physique et mentale que sans quelque chose, comment y parvenir? Il y en a qui fument comme des Turcs en écrivant. Il y en a qui boivent. Il y en a qui prennent des substances illicites. Eh ben moi, je suis théinomane.
Et alors, quand vous avez bu votre thé, tout d'un coup, vous avez votre flash.
Ça sort, mais comme un geyser.
Sur des petits cahiers.
Sur des petits cahiers en papier recyclé à petits carreaux et avec des vieux stylos à billes qui ne marchent pas. J'ai un culte du matériel de mauvaise qualité.
Pourquoi pensez-vous que le métier de comédien est un métier effrayant?
On est là sur une scène avec son grand corps qu'il faut montrer à tout le monde. On doit s'incarner, on doit incarner des mots. Ça fait peur. Je trouve que il faut pour ça un courage que je n'ai pas.
Mais dans les romans, il y a toujours une part de vous-même.
Oui, mais bizarrement, le fait de ne pas y engager mon... Oui, j'y engage mon corps parce que l'écrire est un acte physique. Mais quand le lecteur a mon livre entre les mains, il a quand même pas mon corps dans les mains. heureusement. Et ça fait moins peur.
Mais d'ailleurs, dans Les Combustibles, ça vous aurait pas plu de jouer le personnage féminin qui torture les livres?
Qu'est-ce que ça raconte, Les Combustibles? Parce qu'elle a l'air de savoir ce que c'est,
c'est
et moi
mon préféré,
pas.
Personnellement.
Mais je me sens. Alors, qu'est-ce que c'est?
Ça se passe à Sarajevo l'hiver 94.
Vous n'avez naturellement jamais mis les pieds.
Je n'ai naturellement jamais mis les pieds. Et 3 personnes sont séquestrées dans un appartement à cause de la guerre. Et c'est tout ce qui va se passer entre ces 3 personnes. Et leur mélange d'amour et de haine et de mépris va passer à travers leurs livres. C'est-à-dire que ces gens crèvent de froid parce que c'est l'hiver. Ils n'ont plus de combustible pour mettre dans leur poêle. Tout ce qui leur reste, c'est une bibliothèque. Or, ces gens adorent les livres. Ce sont des gens lettrés. Donc, ça va être...
qui on jette dans le feu.
Voilà.
Ah, mais alors vous, qui vous jetteriez-vous?
Non, ça je ne peux pas régler mes comptes. Dans le livre, j'ai exprès pris des écrivains imaginaires parce que répondre réellement à cette question serait beaucoup trop grave. Il y a bien évidemment des écrivains que je déteste, mais vous savez...
Mais des écrivains morts.
Non, mais même, vous savez, pas si loin de nous historiquement et géographiquement, il y a des gens qui se sont chargés de brûler les livres et je n'ai surtout pas envie de les imiter, ne serait-ce qu'en citant un nom, même d'écrivain que je méprise, même mort. Je préfère répondre à la question à l'envers, si vous voulez bien.
Qui garderiez-vous?
Qui je garderais. Et je pense que pour moi, le livre ultime, celui que je garderais, ce serait Don Quichotte de Cervantes.
Pourquoi Don Quichotte?
Parce que je trouve qu'il y a tout dans ce livre.
Peut-être quelques sang espagnol d'une dame de vos ancêtres belges qui avait tricoté avec un soldat de Charles Quint.
C'est vrai qu'en étant belge...
Peut-être, mais quand même, c'est aller chercher très loin.
Non, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être espagnol ou non. Je pense que... Don Quichotte n'est pas seulement un formidable roman qui parle de littérature d'une façon géniale, mais c'est aussi une leçon d'humanité que je trouve absolument géniale.
Mais vous pensez que vous préféreriez garder Don Quichotte plutôt qu'avoir chaud, comme dans Les Combustibles?
J'espère que je ne serai jamais amenée à connaître la réponse à cette question.
Et puis de toute façon, étant donné qu'elle ne dort pas et qu'elle a eu une période où elle ne mangeait pas beaucoup, peut-être qu'elle n'est même pas frileuse.
Je suis extrêmement frileuse quand j'écris. Quand j'écris, je suis vêtue comme le Yéti.
de châles superposés les uns sur les autres.
C'est beaucoup moins beau que ce que vous pensez. Ce sont des espèces de training japonais thermonucléaire avec au-dessus un énorme manteau en laine de Pyrénées et un bonnet.
Enfin, c'est en juillet?
Même l'été, absolument, même l'été.
Personne ne vient vous voir, j'imagine.
Bah, non, si, il y a une personne qui a vu, mais enfin.
Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il pense?
Il faut bien qu'il s'y fasse.
Oui,
hein,
mais c'est pas grave, après, c'est vous qui transpirez. Mais justement, au Japon, on n'a pas le droit de transpirer.
Non, mais je transpire pas à ce moment-là. Même avec ce vêtement-là, j'ai froid.
Plus tard, vous pensez quand même avoir des enfants ou je sais pas.
Non.
Ce que vous pensez pour le mariage, donc.
Non, je pense pas du tout à avoir des enfants. Vous savez, j'ai vécu. Je n'ai pas seulement vécu au Japon, j'ai vécu aussi dans beaucoup d'autres pays d'Asie. Et entre autres, j'ai vécu 3 ans dans le pays le plus pauvre du monde, qui est le Bangladesh. Et j'ai vu tellement d'enfants abandonnés. Je me suis dit, si un jour j'ai envie d'enfants, alors j'en adopterai. Mais ayant vu tant d'enfants abandonnés et qui auraient tellement besoin d'être adoptés, je préfère ne pas en mettre un nouveau au monde, d'autant plus que je ne sens pas ça en moi. Si je sentais ça en moi, je l'aurais fait, mais...
De toute façon, à notre époque, maintenant, il paraît qu'il suffit d'aller en Italie, on fait des enfants à 65 ans, vous avez largement le temps.
Par rapport à ce que vous avez vécu, j'ai une phrase qui me vient de Senghor, c'est « l'avenir est au métissage », donc je voulais savoir vraiment ce que vous en pensiez.
Je suis profondément d'accord avec ça. Le métissage est toujours une richesse culturelle. Rien n'est plus triste que ces peuples qui se replient sur eux-mêmes et... C'est peut-être la seule bonne chose qui est en train de se produire maintenant, c'est qu'on va de plus en plus vers le métissage.
Et est-ce que ce métissage, selon vous, a servi dans tout votre quotidien, que ce soit pendant votre enfance et tout ça, et est-ce que vous le ressentez de plus en plus?
Oui. C'est à la fois quelque chose de parfois dur à vivre, parce qu'on est quand même rejeté par beaucoup de gens, mais en même temps, on a l'impression de... d'être de plein pied avec tout le monde partout.
Jamais au Japon.
Non, même au Japon. Même au Japon. C'est eux qui n'ont pas voulu de moi, mais moi je n'ai pas dit que je ne voulais pas d'eux. Je crois que ce livre a quand même montré à sa manière que je les comprenais pas mal.
Il doit y avoir pas mal de petits métis américano-japonais.
Non.
La fin de la guerre, il n'y en a pas eu.
Les
il y a
Japonais.
quand même eu une occupation américaine,
Oui, mais
donc
on ne
il y
se
a eu
mélange
des
pas.
GI, donc il y a eu quand même quelques demoiselles qui ont fauté.
Oui, mais c'est resté un phénomène très marginal. On ne se mélange pas. Ça n'a vraiment pas donné beaucoup de métissage. Ou si ces métis existent, c'est plutôt en Californie qu'on les trouve, mais pas au Japon.
Ah oui.
Oui. Il suffit de gratter un tout petit peu pour se rendre compte que les Japonais n'aiment vraiment pas les Américains et que tous les Japonais ont gardé Hiroshima et Nagasaki ici et que ça ne passe pas. Donc on ne va pas les épouser, non?
Ce qui vous attire chez Björk, justement, c'est pas le déracinement qu'elle a eu comme vous?
C'est possible, mais c'est aussi c'est quelqu'un qui allait tellement loin dans la recherche de sons.
Oui.
C'est vraiment un génie créateur, quoi. Elle a inventé des sons qui n'existaient pas. C'est quelqu'un qui est à la recherche de sensations très précises. Et là, je peux me retrouver en elle. Parce que je disais tout à l'heure que je ne suis pas quelqu'un de très ambitieux, c'est tout à fait vrai. En revanche, je suis ambitieuse de sensations. Il y a des sensations, quand j'écris, je sais quelles sensations je veux atteindre. Je sais dans quelle région de moi-même je veux aller. Et peut-être à ce moment-là, je peux comparer mon travail au sien pour la recherche de sensations et de perceptions extraordinaires.
Que ressentez-vous lorsque l'on dit de vous que vous êtes un écrivain? Est-ce que c'est une certaine fierté ou le mot ne vous satisfait pas?
Aussi, le mot me comble complètement, mais en même temps, bon, quand on parle de moi, je suis toujours un petit peu mal à l'aise.
Vous vous dites, ils vont s'apercevoir que je ne suis pas un
D'abord,
écrivain.
j'ai bien évidemment peur qu'ils se rendent compte que tout ceci est une supercherie, mais le but du jeu n'était pas qu'on parle de moi, le but du jeu était de donner à des gens envie de lire mes livres. C'est mes livres qui sont importants, c'est pas moi. Bon, alors, il est fatal qu'on parle un peu de moi dans cette histoire et j'écoute poliment, japonaisement, mais ça me met toujours assez mal à l'aise.
Mais vous vous dites que les livres, ce sont quand même une partie de vous-même, c'est
Oui.
une façon d'extérioriser vos sentiments.
Oui.
Donc j'avais plutôt l'impression que justement, c'était pour vous un moyen de vous donner aux autres, peut-être.
Oui, c'est la forme de langage la plus forte que j'ai trouvée. Tout à l'heure, je parlais de mes premières années en Europe qui ont été d'une solitude effrayante. Depuis ces publications, c'est devenu exactement le contraire parce que tant de gens m'ont lu et tant de gens m'ont bien lu. Et vraiment, il s'est passé entre moi et ces gens que je n'ai pas forcément rencontrés des relations d'une profondeur absolument extraordinaire. Vous savez, quand on rencontre des gens, on n'a pas forcément grand-chose à leur dire, et puis quand on les a, même si on passe 2 heures avec eux ou 2 semaines avec eux, on ne peut pas dire qu'on les a connus. Mais à travers la lecture, il peut se passer vraiment des choses. On va beaucoup plus loin dans les rapports humains.
Moi, je pense que c'est la solitude qui vous a amené à écrire.
Il est certain que ça a joué un rôle énorme de l'âge de 10 à l'âge de 20 ans. S'il n'y avait pas eu ma sœur, il n'y aurait eu personne dans ma vie. Et
Ça, c'est sûr, ça.
Et pourquoi vous n'aviez pas des petites copines? Vous n'aviez pas en classe vous...
À partir de l'âge de 11 ans, j'ai été dans des pays où il n'y avait pas d'école pour moi, puisque c'était le Bangladesh, la Birmanie, le Laos. Donc je faisais ça par correspondance avec ma sœur. Donc j'étais en effet très solitaire.
Et maintenant, vous avez plein d'amis maintenant.
Plein.
Trop. Hein?
On n'en a jamais trop, mais c'est vrai que. Par exemple, je reçois un énorme courrier de lecteurs qui me ravit. J'aimerais répondre à tous et je fais un maximum pour répondre au plus possible, mais je ne parviens pas à répondre à tout parce que le nombre est trop important.
Vous avez 22 heures par jour. Chaque jour,
Oui,
vous
mais enfin
écrivez à
bon.
4 personnes.
Oui, mais c'est quand même très fatigant, vous savez tout ça. D'autant plus que je ne suis pas du style à écrire une lettre de politesse. Moi, quand j'écris une lettre, c'est pour
C'est
écrire
4
une
pages.
vraie lettre. Non, ce n'est pas 4 pages.
Une vraie lettre, qu'est-ce que vous voulez dire par une vraie lettre?
Une lettre où vraiment j'écris quelque chose ou d'autre que. Merci, cher monsieur, pour votre lettre. Veuillez croire à l'assurance de ma considération distinguée. Si c'est pour écrire ça,
Non,
ben,
ça, une secrétaire peut le faire.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous mettez alors?
Tout dépend de l'interlocuteur, tout dépend de ce que la personne m'a écrit. Je réponds vraiment à la lettre. Je suis en écho à ce qu'on me dit.
Vous avez l'air d'être pas très installé quand même dans votre vie,
C'est
non?
vrai.
Pas sûr d'être
C'est vrai.
écrivain, pas sûr. Bon, vous êtes couronné par l'Académie française, mais ils peuvent se tromper. Enfin, bon, vous prenez ce qui vient, mais
Oui.
vous n'avez pas l'air d'être très sûr que tout ça est très stable. Vous vous voyez où dans 10 ans?
Je ne me vois nulle part. Je suis incapable de me projeter dans l'avenir, ni même d'y penser. Et C'est une dimension qui manque totalement à ma vie.
Vous ne vous sentez pas un peu perdue?
Si, certainement. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu... ça rend la vie inconfortable, mais ça la rend plus intéressante. Avoir un plan de carrière, c'est déjà être mort. Tandis que quand on ne sait vraiment pas où on va, ça devient plus intéressant.
Vous parliez tout à l'heure du courrier des gens qui vous lisent. Est-ce que vous avez souvenir d'une lettre qui vous a plus particulièrement touchée ou de par les sentiments de la personne qui vous écrivait?
J'ai le souvenir de plusieurs centaines de lettres qui m'est particulièrement touchée parce que je reçois quand même des lettres assez exceptionnelles. Pas toutes, bien sûr. Mais autant dans la beauté que dans l'horreur, j'ai reçu des lettres absolument extraordinaires.
S'il y avait effectivement des gens qui vous écrivaient pour vous dire qu'ils ne vous aiment pas du tout ou que...
Oui, mais ça, si on dit poliment, j'aime pas vos livres, c'est des choses que je peux très bien entendre. Mais des gens qui me disaient, je préférerais que vous soyez morte plutôt que d'avoir écrit ce livre.
Et ils prenaient leur plume, leur papier et un timbre pour dire ça à quelqu'un.
Oui, et ça prenait 8 pages.
Alors écoutez, c'était quelqu'un de très seul quand même. Hein. Parce que pour travailler sa colère pendant tout le temps qu'il fallait pour écrire la lettre, poster et tout, ça c'est vraiment, faut pardonner ça dans ce cas-là.
Ah non, mais bien évidemment, moi c'est pardonné d'avance. Mais ça, disons qu'on se pose quand même que quelques questions sur la nature humaine quand on voit que ce jeune homme n'avait rien de mieux à faire de son week-end que de m'écrire.
En plus, c'est un jeune homme, il est amoureux de vous.
Mais je crois. Je ne pourrais pas le dire autrement.
Oui, mais vous savez, l'amour, haine, etc. Enfin, c'est connu. Vous disiez quand même que vous ne voyez pas du tout l'avenir.
Oui.
Alors, je vais vous sortir une phrase du questionnaire de Proust. Quelle serait la plus grande misère qui puisse vous arriver?
Être mise en situation de ne pas écrire. Mais je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Il faudrait vraiment que je sois prisonnière politique dans une cage et qu'on m'ait ligoté les mains et que je n'ai vraiment rien pour tracer quoi que ce soit.
Alors vous êtes tranquille.
Non, parce qu'à côté de ça, d'autres désastres pourraient m'arriver.
Par exemple,
perdre des êtres qu'on aime. Ça, c'est le grand danger que nous courons tous.
Vous y pensez beaucoup?
Oui, depuis que je suis toute petite, c'est une chose qui me préoccupe pas mal, la mort des autres. Pas la mienne, ça je m'en fous, mais la mort de ceux qu'on aime, ça a toujours été un problème pour moi. L'écriture est aussi une réponse à ça, bizarrement. J'ai du mal à expliquer ça, mais on dirait qu'écrire, c'est aussi c'est un acte contre la mort aussi.
Faire vivre, faire durer.
Oui.
Vous avez des idées assez noires dans un contexte général. Vous écoutez Björk, qui est une musique assez glauque en soi. Est-ce que vous vous complaisez dans cet état d'esprit?
Je ne trouve d'abord pas du tout que Björk soit une musique glauque. Je ne me complais dans rien. Je suis pessimiste par conviction. Ça ne m'a jamais empêchée d'être extrêmement joyeuse par nature. Et je crois que ça se voit d'ailleurs. Je ne suis pas quelqu'un de larmoyant. Mes bouquins sont assez rigolos. Donc, au contraire, je dirais que même mon pessimisme pur et dur est une raison supplémentaire pour être extrêmement joyeuse. Parce que quand on se dit qu'il n'y a somme toute rien de très bon à attendre de l'avenir, c'est là qu'on peut commencer à être vraiment joyeux.